c'est vous qui le dites.
Le site des impôts a été victime fin juin d'un piratage informatique et d'une fuite de données confirmée par le directeur général des finances publiques le 14 août à la suite d'une usurpation d'identité d'un salarié. Parmi les 678 000 personnes touchées par cette cyberattaque, on compte plus de 350 000 particuliers. Il y a une semaine, les victimes ont reçu un mail de la Direction générale des finances publiques pour les avertir des données qui leur ont été dérobées. Chacun d'entre eux, sans exception, a été victime de vol de toutes ces données, coordonnées, revenus fiscaux, taux de prélèvement à la source ou encore historique de messages échangés avec l'administration. Face à ces inquiétudes, les victimes se sont regroupées le lundi 24 août pour lancer une action collective contre l'État. Alors, comment se prémunir face à ces fuites répétées et protéger concrètement nos données au quotidien? Pour répondre à nos questions, nous recevons Nenvel Leclinche, cofondateur de Nostranode et expert en cybersécurité. Bonjour Nenvel Leclinche.
Bonjour.
Comment un hacker peut-il pirater nos données personnelles? Pour rappel, le site des impôts a été piraté par l'usurpation d'une identité d'un salarié. Existe-t-il d'autres méthodes de piratage plus courantes comme les mails, les messages ou bien un appel téléphonique ?
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs méthodologies. Là, vous en avez rappelé plusieurs. Le phishing, donc les attaques par mail, le smishing, c'est pareil avec les SMS. Mais il y en a d'autres aussi, dont l'État a pu en faire malheureusement l'expérience. C'est les failles de sécurité qu'il peut y avoir dans les solutions déployées ou les erreurs humaines. Par exemple, des mauvaises configurations ou des erreurs d'étourderie qui mènent à des cas plus graves. Et donc, par réaction en chaîne, on arrive à la compromission de données.
On reçoit souvent des mails qui nous redirigent vers des faux sites. Les sites officiels se terminent par .gouv.fr, mais certains usurpateurs réussissent à créer des adresses trompeuses, comme ça s'est produit avec l'assurance maladie. Quels sont les indices qui nous permettent de repérer un faux site?
Pour repérer un faux site, déjà il faut voir en fait ce qu'il y a autour plutôt que le faux site. On va d'abord analyser le mail, voir est-ce que c'est pertinent. Si j'ai reçu un mail, par exemple, je vais recevoir un mail, je sais pas, de la CAF qui va me dire, tiens, mettez à jour votre mot de passe, il va expirer dans 3 jours, etc. Il faut faire attention à la notion d'urgence. Est-ce que c'est pertinent de recevoir un mail de la CAF à 3h du matin pour me dire de changer notre mot de passe? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Le plus simple, c'est contacter vous-même, de votre propre chef, directement la CAF. Ne cliquez pas sur les liens dans les mails, etc. Contactez la CAF. J'ai reçu ça, est-ce que c'est normal, etc. Ils vous diront et vous répondront au mieux, quoi.
Concrètement, quels sont les risques directs d'une fuite de données personnelles? Car je rappelle que souvent, ce sont des données sensibles, comme votre nom, votre adresse, votre salaire, votre revenu fiscal. Et comme risque, lorsque j'entends comme risque, ça peut arriver qu'il y ait des cambriolages, qu'il y ait des enlèvements, des séquestrations dans le but de soutirer de l'argent aux particuliers. Donc, quel est le but des hackers dans ce cas-là?
Ça peut être beaucoup de choses. Ça dépend du type de données qui a été extraite et du type de données que vous pratiquez. Je prends un exemple tout simple. Il y avait un site qui était un vendeur de vélos électriques qui avait une faille de sécurité et en fait n'importe qui pouvait récupérer les factures de n'importe quelle personne. Donc avec nom, prénom, numéro, tête de téléphone, adresse email et adresse. Donc maintenant, il ne suffit plus que de regarder sur, par exemple, Facebook et de pouvoir regarder si vous êtes en vacances et puis de venir toquer à la porte pendant que vous n'êtes pas là.
Une fois dérobées, que deviennent ces données? Sont-elles revendues sur le dark web? En général, c'est ce qu'ils font les hackers. Ou sont-elles revendues à d'autres escrocs? Quel usage font-ils par la suite?
Ça peut être beaucoup de choses. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils regroupent toutes ces données, comme vous l'avez dit, dans une grosse base de données qu'on appelle des combo listes et qui va servir en fait à mélanger, en mélangeant plusieurs fuites de données en même temps, va arriver à une liste vraiment complète de votre identité. Et donc avec ça, on va pouvoir utiliser et la réexploiter sur d'autres sites, par exemple, pour essayer de récupérer de plus en plus de données qui va alourdir votre dossier et donc va le rendre plus cher pour la revente effectivement de vos données personnelles.
En tant qu'expert en cybersécurité, quels sont les réflexes essentiels à adopter pour éviter donc le piratage et à l'inverse, quels sont les mauvais gestes à éviter donc aussi?
Très simple. Les premiers gestes les plus simples pour des particuliers, j'entends, C'est premièrement de modifier régulièrement vos mots de passe, de ne pas avoir tout le temps les mêmes mots de passe sur tous les sites et autres, etc. Utiliser des gestionnaires de mots de passe, hein, tout simplement. Je prends un exemple très simple, Bitwarden, KeePass ou Dashlane si vous cherchez du français. Utilisez l'un des trois, vous trouverez votre bonheur avec ces trois-là. Autrement, activez la double authentification absolument aussi sur tous les sites qui le disposent. Ça devient maintenant obligatoire. Comme vous l'a dit à la DGFiP, malheureusement, ils ont encore fait preuve de cette erreur d'étourderie, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc, activez au maximum la double authentification, changez vos mots de passe le plus souvent possible. Et une erreur à éviter, c'est de garder vos mots de passe dans votre navigateur. Il est très, 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 très facile pour un attaquant de récupérer les mots de passe dans votre navigateur. Donc vous allez dans votre navigateur favori, que ce soit Chrome, Edge, Firefox, peu importe. Il y a une petite option pour voir vos mots de passe qui sont dedans, dans les paramètres. Et ça, il faut absolument les vider, les supprimer, qu'ils ne soient plus effectifs dedans. Et mettez tout dans un gestionnaire de mots de passe.
Si l'on réalise que nos données ont été piratées, quelle est la marche à suivre ? Faut-il porter plainte, contacter sa banque, prévenir son employeur ou faire appel à un expert en cybersécurité ?
Tout dépend de la gravité de la situation. Si par exemple je me suis fait pirater sur le site des impôts par exemple ou mon site bancaire, effectivement là ça peut être un peu gênant. S'il y a un préjudice en plus, ça peut être un peu plus compliqué. Donc là oui, il faudrait bien évidemment porter plainte, voir avec les assureurs pour avoir des dédommagements, etc. Mais le premier réflexe, peu importe la cyberattaque, c'est d'abord de voir quelles données ont été fuitées, sur quel site, et donc changer ces fameux mots de passe, changer la double authentification, etc., etc. Et s'assurer qu'on reprenne contrôle de nos données ou de notre compte sur le site en question.
Est-ce que les cyberattaques ont augmenté en France ? Je pense notamment aux récentes attaques telles que les banques, l'éducation nationale.
Alors, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. Dans le sens où la France est passée première mondiale pendant quelques semaines, première leader mondiale, malheureusement, sur les fuites de données. Donc, oui, ce n'est plus une question de savoir si ça a augmenté, c'est une question de c'est là, et nous sommes pas les meilleurs dans ce domaine-là, clairement pas. Donc, il faut absolument se protéger, et donc, il y a des choses simples pour mettre en place, c'est, comme je vous ai dit, d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, au moins ça.
Et enfin, est-ce qu'on peut dire que l'État est devenu incapable de protéger nos données personnelles à l'heure actuelle ?
Incapable, je dirais pas. Ils font quand même un lourd travail qui est pas simple non plus. Pour moi, voir le côté, la partie technique, je sais à peu près ce qui est mis en place, etc. Donc, effectivement, non, c'est un lourd travail qui n'est pas simple, avec beaucoup de régularisation, qui ne sont pas simples. Pour autant, il y a quand même des trous dans la raquette, notamment avec la transposition NIS 2 qui n'est toujours pas en vigueur, qui aurait pu justement, si elle était transposée, prévenir ce risque-là de la DGFiP.
Face à la récente cyberattaque du site des impôts, le sentiment d'insécurité est réel. Apprendre à protéger ses données personnelles devient une nécessité absolue. Car nul ne sait quel système sera ciblé demain. Une certitude demeure. La justice punit très sévèrement ces actes, la loi prévoyant jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour le piratage d'un système de l'État. Merci Monsieur Nelvel Leclinch d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes collaborateur de la société Nostranode et expert aussi en cybersécurité. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast.
C'est vous qui le dites. L'émission d'info locale.